Donc on est dans 2 Samuel, chapitre 6. Et on va lire, alors la même histoire est racontée à la fois dans le livre de Samuel et dans le livre des Chroniques. Ça arrive souvent. Du coup, ça permet aussi d'avoir peut-être plus de détails. Donc c'est intéressant, comme je vous l'ai déjà dit, les textes de la Bible ne se contredisent pas, mais ils se complètent très très bien. Alors, on va le lire parce que ce sont des textes un peu difficiles qui demandent vraiment de la réflexion et de la prière parce que ce n'est pas des textes simples. David rassembla encore toute l'élite d'Israël. Donc, il venait d'avoir la victoire sur les Philistins. Hein. Au nombre de 30 000 hommes, David et tout le peuple qui était avec lui partit de Baal et Juda pour en faire monter le coffre de Dieu. Alors, suivant les traductions, vous avez Arche de l'Alliance, coffre... sanctuaire dans certaines traductions, donc voilà, on va voir ce que c'est. Sur lequel est invoqué le nom du Seigneur Yahvé des armées, qui est assis sur les kéroubim, les chérubins, au-dessus du coffre. Ils chargèrent le coffre de Dieu sur un chariot neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinadab qui est sur la colline. Uzza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Et il insiste, hein. Attention, ce n'était pas n'importe quel chariot. Ils l'emportèrent donc de la maison, qui est sur la colline, avec le coffre de Dieu. Ahio jouait devant David et toute la maison d'Israël jouaient devant le Seigneur sur toutes sortes d'instruments, en bois de cyprès, sur des lyres, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils arrivèrent à l'ère de Nakhon, Uzza étendit la main vers le coffre de Dieu et le saisit parce que les bœufs avaient glissé. Le Seigneur se mit en colère contre Uzza et Dieu l'abattit là à cause de cette insolence. Alors là, nous, on comprend plus rien. Ok, voilà. C'était mon cas aussi quand j'ai lu ce texte petite. C'était quelque chose que vraiment, voilà. David se fâcha parce que le Seigneur avait ouvert une brèche en Uzza. C'est pourquoi on appelle ce lieu Pérès Uzza, brèche d'Uzza jusqu'à ce jour. Voilà, on en comprend encore moins. En ce jour-là, David fut saisi par la crainte du Seigneur. Ah. Il dit « Comment le coffre du Seigneur pourrait-il entrer chez moi ?» Il ne voulut pas prendre le coffre du Seigneur chez lui dans la ville de David. Il le fit conduire dans la maison d'Obed-Edom. C'est la deuxième fois qu'on envoie l'Arche d'Alliance ailleurs, le Gathite. Le coffre du Seigneur resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, le Gathite, et le Seigneur bénit Obed-Edom et toute sa maison. Alors là, on ne comprend plus du tout. C'est très, très bizarre. On va lire ce même passage dans les Chroniques. Alors, c'est 1 Chronique, chapitre 15. Donc, David prépare le transfert du coffre. David se fit des maisons dans la ville de David. Il prépara un lieu pour le coffre de Dieu, ou l'Arche de l'Alliance, suivant les traductions, et dressa pour lui une tente. C'est alors que David dit, le coffre de Dieu ne doit être porté... Ah non, non, là, je ne suis pas dans le bon. Pardon, c'est la deuxième partie. C'est 1 Chronique. Voilà. Voilà, c'est 1 Chronique 13. Ça, c'est la bonne partie. On va commencer par la mauvaise. 1 Chronique 13. David tint conseil avec les chefs de 1000 et de 100, avec tous les dirigeants. Tiens, tiens. Il manque quelque chose, là. Puis David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si cela vous paraît bon, et si cela vient du Seigneur, accessoirement, notre Dieu, envoyons des messages de tous côtés à nos frères qui restent dans tout le pays d'Israël, ainsi qu'aux prêtres. » et aux Lévites, aux abords de leur ville, afin qu'ils se rassemblent auprès de nous. Nous ramènerons chez nous le coffre de notre Dieu, car nous ne l'avons pas cherché au jour de Saül. Toute l'assemblée se prononça pour qu'on agisse ainsi. La chose paraissait convenable à tout le peuple. Bien sûr, David rassembla tout Israël, depuis le Chior d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiriath Yearim le coffre de Dieu. David, avec tout Israël, monta, à Bala, à Kiriath Yearim, qui appartient à Juda, pour en faire monter le coffre de Dieu. Le Seigneur qui est assis sur les chérubins et dont le nom est invoqué là. Ils chargèrent le coffre de Dieu sur un chariot neuf. Depuis la maison d'Abinadab, Uzza et Ahio conduisaient le chariot, David et tout Israël jouaient de toutes leurs forces devant Dieu, sur des lyres, des luths, des tambourins, des cymbales, des trompettes et avec des chants. Lorsqu'ils arrivèrent à l'ère de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir le coffre parce que les bœufs avaient glissé. Le Seigneur se mit en colère contre Uzza et l'abattit parce qu'il avait étendu la main sur le coffre. Uzza mourut là, devant Dieu. David se fâcha parce que le Seigneur avait ouvert une brèche en Ouza. C'est pourquoi on appelle ce lieu Pérets Ouza. Brèche d'Ouza jusqu'à ce jour. En ce jour-là, David fut saisi par la crainte de Dieu. Comment pourrais-je faire entrer chez moi le coffre de Dieu ? David ne prit pas le coffre chez lui dans la ville de David et il le fit conduire dans la maison d'Obed-Edom, le Gathite. Le coffre de Dieu resta 3 mois chez Obed-Edom, dans sa maison. Et le Seigneur bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Alors là, il y a tout un tas de mystères. Et quand on ne connaît pas le contexte, je me souviens quand j'ai lu ça, que j'étais petite, je ne voyais vraiment pas ce que Dieu avait fait là. C'est incompréhensible. Donc il faut connaître le contexte. On va être obligé de s'attarder un tout petit peu sur le contexte. Je suis désolée, mais sinon, le texte n'est vraiment pas clair. Donc vous vous souvenez, Jérusalem était devenue capitale royale, centre politique du pays. Jusque-là, tout va bien. Mais David, il voudrait aussi que ce soit le centre religieux, où Dieu est adoré. Que ce soit un peu comme une capitale de Dieu, comme le sanctuaire central. Et c'était parfaitement dans les plans de Dieu. Jusque-là, on est dans les plans de Dieu. Le meilleur moyen pour que cette ville soit vraiment sanctuaire royal, que Dieu s'établisse à Jérusalem, sa ville, c'est toujours vrai aujourd'hui, hein. Le meilleur moyen était d'amener à Jérusalem ce coffre précieux que nos Bibles françaises appellent l'Arche de l'Alliance. Alors je sais qu'on parle aussi de l'Arche de l'Alliance dans... Quel film là Indiana Jones, voilà. Alors... Essayons de ne pas mélanger les choses avec vos souvenirs d'Indiana Jones. Voilà. Symbole de la présence et de la bénédiction divine. Alors, c'est un symbole matériel, mais qui avait un sens. Et vous savez qu'à l'époque, et là, Leanne Payne insiste tellement là-dessus, c'est que les symboles étaient très importants et ils étaient compris par les gens. Nous, maintenant, on perd le sens des symboles. Ah bon, on a d'autres symboles. Hein, le petit A, là, hein, ou bien le code de la route a ses symboles, l'informatique, donc, a tout un tas de symboles kabbalistiques auxquels moi, je ne comprends rien. Et voilà. Mais par contre, on a perdu les symboles religieux. Ah, les symboles des couleurs, des chiffres, des objets, des matériaux, etc. Et malheureusement pour nous, le temple, le tabernacle et l'Arche de l'Alliance sont bourrés de ces symboles. Et évidemment, nous, alors, voilà, presque 4000 ans plus tard, en tout cas plus de 3000 ans, on est perdu parce qu'on a complètement perdu le sens de ces symboles. Donc, il va falloir qu'on travaille un tout petit peu les symboles si on veut comprendre quelque chose. Donc, l'Arche de l'Alliance, symbole de la présence et de la bénédiction divine. L'Éternel siège là. Cette Arche de l'Alliance, alors elle avait été construite au temps de Moïse, mais elle était restée depuis plus de 50 ans chez un certain Abinadab à Kiriath Yearim. C'est au nord-ouest de Jérusalem, à peu près 6 kilomètres. Mais qu'est-ce qui s'était passé ? Pourquoi elle n'était plus dans la tente d'assignation, le tabernacle ? Elle aurait laissé sa place dans le lieu très saint, quelque chose qui n'allait pas. Eh bien, qu'est-ce qui s'était passé ? Vous vous en souvenez peut-être, on l'a fait il y a quelques années, dans 1 Samuel au chapitre 5, au temps d'Élie, les Philistins avaient attaqué Israël. Vous voyez, c'est une manie chez eux. Hein. Et Israël, à cette époque, s'était franchement éloigné de Dieu, et chez eux aussi, c'était une manie, de s'éloigner de Dieu. Mais ils pensaient qu'en apportant l'Arche de l'Alliance sur le champ de bataille, elle aurait un pouvoir particulier qui leur permettrait d'avoir la victoire sur leurs ennemis. Ah ! L'idolâtrie humaine. Terrible. Ça représentait la présence de Dieu. Mais ce n'était pas magique. Il s'était éloigné de Dieu. Et l'inévitable est arrivé. La présence de Dieu n'est pas un truc qu'on manipule, comme disait le recteur de Vaux-sur-Seine. Et les Philistins vont gagner la victoire. Et du coup, quand on gagne la victoire sur des ennemis à cette époque-là, on emmène ses dieux. Alors, les enfants d'Israël, on a vu la semaine dernière, ils ont brûlé les idoles des Philistins. Mais à cette époque-là, les Philistins étaient tout contents, ils emmenaient l'arche. En plus, ils étaient couverts d'or et tout, donc on va voir tout à l'heure à quoi ils ressemblaient. Ils étaient conscients que c'était un objet religieux précieux. Alors, ils ne veulent pas récupérer l'or, ils veulent le mettre dans leur temple, à côté de leur dieu Dagon. Mais Qu'est-ce qu'il découvre ? C'est que le lendemain, en arrivant dans le temple, Dagon, il est couché par terre. Ah, la pauvre statue, ils la remettent debout. Et puis le lendemain, bah, il avait perdu la tête et les mains. Très symbolique aussi, hein. Voilà, on ne peut rien faire devant Dieu. C'est pas magique. Mais Dieu, chaque fois, il a un message. Vous savez, dans la parole de Dieu, c'est ça qui est important. Chercher qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de ce texte. Et le message était clair et les Philistins, ils comprenaient les symboles. Ils se sont dit, oulala, ce Dieu-là, il va nous poser des problèmes. Et très vite, il y a eu tout un tas de maladies, de calamités dans les villes. Alors, ils ne sont pas embêtés, ils envoyaient l'Arche de l'Alliance dans la ville d'à côté. Et puis ça recommençait, donc ils l'ont envoyé dans la ville d'à côté. La troisième, elle a dit, nous, on n'en veut pas. Hein. C'était écran, ils ont dit, non. On a transféré chez nous le coffre du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Renvoyez ce coffre, qu'il retourne en son lieu. C'est dans Samuel, chapitre 5, verset 11. Alors, bah oui, mais on le renvoie comment ? Parce que c'est quand même des ennemis, hein. Alors, les prêtres et les devins philistins, et ça, c'est important pour notre histoire, ils se rassemblent. On va dire les prêtres, les devins, les magiciens des philistins. Ils sont conscients qu'ils ont affaire à un Dieu puissant. Ouh là là ! Puisque leur Dieu s'est cassé la figure devant... Là, il va falloir avoir du doigté, hein. Et ils se consultent, ils se disent, là, il faut qu'on soit délivrés de tous les malheurs et les maladies qui nous atteignent. On a une malédiction sur notre peuple à cause de cette arche. Il faut la renvoyer chez eux. Mais alors, on va la mettre sur un chariot tout neuf, parce qu'il faut l'honorer, ce Dieu. Hein. On ne va pas le mettre sur le chariot à foin du voisin. Hein. C'est un Dieu qu'il faut honorer. Et puis, comment est-ce qu'on va savoir que c'est vraiment un Dieu si puissant que ça ? Eh bien, ils ont trouvé une bonne astuce, parce que c'était des paysans, hein. C'était des gens de la campagne. Et ils savent, quand une vache allaite son petit veau, elle ne va jamais aller loin du petit veau. Donc, ils mettent, pour tirer le chariot, deux vaches. Et en plus, ils sont malins, c'est des vaches qui n'ont jamais porté le joug. Alors, bien sûr, pour nous qui ne sommes pas de la campagne, mais André, il le sait, on ne va pas mettre un joug comme ça, du jour au lendemain, sur le cou d'une bête qu'on n'a jamais portée. Elle va s'énerver, elle va tout casser... Donc, ils font tout pour savoir que c'est bien Dieu. Ils prennent des vaches qui allaitent leurs petits veaux, ils enferment les petits veaux, et puis ils mettent le joug et vogue la galère. Est-ce que l'arche va rentrer en Israël ? Eh bien oui. Et les pauvres vaches, d'ailleurs le texte est intéressant, il dit elles n'ont pas arrêté de meugler, parce que je pense qu'elles étaient malheureuses de devoir s'éloigner de leurs veaux, mais c'était plus fort qu'elles. Et elles ont ramené l'arche en Israël. Donc là, les Philistins, ils avaient eu leur réponse, oui, ce Dieu-là est un Dieu tout-puissant. Alors en Israël, ils étaient contents, ils offrent les vaches en sacrifice, mais ils brûlent le chariot, enfin ils font tout ce qu'il faut pour faire un sacrifice en bonne et due forme, comme on faisait à l'époque, mais ils ont un problème, ils manquent de respect envers cette arche. Cette arche qui était le symbole de la présence de Dieu, ils vont, alors la Bible dit suivant les traductions, regarder, fouiller, enfin, ils le traitent comme l'armoire magique, comme quelque chose qu'on peut toucher, etc. Or, c'était parfaitement interdit dans la loi. Et il va y avoir des morts. Et là, les gens sont pris de peur et ils demandent aux habitants de Kiriath Yearim de venir chercher l'Arche de l'Alliance, pareil, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus parce que c'est quelque chose de bizarre. Ils ont oublié que dans la loi, c'était écrit formellement de ne pas porter les yeux sur le contenu, sur le coffre en lui-même, etc. Il était voilé normalement. Et on va le mettre chez un certain Abinadab. Et là, curieux, chez Abinadab, ça se passe bien. Alors, c'est marrant, hein, cette présence de Dieu qui a créé tout un tas de calamités chez les Philistins. Qui a fait que les gens qui s'en approchaient trop près pour toucher, pour regarder, etc., sont morts. Eh bien, une fois qu'elle est chez quelqu'un qui accepte de le recevoir, certainement avec respect, ça se passe bien. Et même sa maison est bénie. Pendant les années de Saül, Saül ne se préoccupe pas de faire revenir l'arche. On peut comprendre, hein, avec tout ce qui s'était passé. Mais le fait est que Saül, ce n'était pas son truc. Il n'a pas cherché à rétablir le culte dans l'attente de la rencontre, on peut aussi comprendre pourquoi, puisque il avait des problèmes avec la soumission à Dieu, avec l'obéissance. Alors d'abord, c'était quoi cette arche? Alors je crois que vous avez les photos. Je sais qu'ils en ont reconstruit une récemment en Israël, sur le modèle et les dimensions de l'Ancien Testament. Donc c'était le principal objet du tabernacle, c'était un coffre d'environ 1,15 m de long. Vous voyez, ce n'est pas très long, 1,15 m. Et 70 cm de large, 70 cm de haut. Il était en bois d'acacia et revêtu d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Un côté très précieux, très brillant. La base avait de chaque côté deux anneaux d'or. Alors vous les voyez, je ne sais pas si c'était, oui, c'était à peu près à cette hauteur. Deux anneaux d'or où on passait les barres en bois d'acacia, qui elle aussi était recouverte d'or. Elles auraient dû figurer là-dessus pour le transport de l'arche. Alors ce qui est important dans ce coffre, c'était le couvercle. Le couvercle était en or massif et avec à chaque extrémité, et qui faisait partie intégrante du couvercle, dans le même fonte d'or, j'imagine, il y avait deux chérubins, alors c'est des sortes d'anges, qui dans la Bible sont toujours représentés comme étant soutenant le trône de Dieu. Alors vous pouvez avoir plus de détails si vous cherchez dans des encyclopédies bibliques, mais j'essaie de simplifier un tout petit peu pour qu'on ait les choses clairement dans la tête. Alors, ce qui est important, c'est que ces chérubins étaient face à face. Ils abritaient en quelque sorte le couvercle de leurs ailes et leur regard était dirigé vers ce couvercle. Pourquoi ? Parce que c'est là que le grand prêtre, une fois par an, aspergeait du sang de l'offrande. Et ce couvercle s'appelle le propitiatoire, c'est-à-dire ce qui rend Dieu favorable. Et il mettait les sacrifices d'expiation, le sang du sacrifice d'expiation, pour le pardon des péchés du peuple. Et les chérubins, c'est ça qu'ils regardaient. Et c'est intéressant, parce que leur regard n'était pas sur l'homme, sur l'extérieur, sur le ciel, mais sur ce sacrifice extraordinaire qu'allait être le sacrifice de Jésus. Parce que ça, c'était un signe de ce que Jésus allait faire. C'était une préfiguration de ce que Jésus allait faire. Et quand on regarde les choses de l'Ancien Testament, je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'on le faisait à l'école du dimanche quand j'étais jeune, on voyait tous les symboles qui annonçaient la venue de Jésus. Et ce sang versé là sur le couvercle en or, c'était un symbole de ce que Jésus allait faire pour nous, verser son sang. Et les chérubins avaient les yeux rivés sur le sang du sacrifice. Alors en gros, là, ça nous décrit l'objet. Dans Nombre 4, 15, ce sont les fils de Kehath qui sont appelés à porter ce coffre. Et il est précisé dans ce chapitre, ils ne toucheront pas le sanctuaire, car ils mourraient. Même ceux qui sont supposés porter ce coffre n'avaient pas le droit d'y toucher. C'est pour ça qu'il y avait des barres. Telle est la charge des fils de Kehath de l'attente de la rencontre. Alors, Moïse, dans Nombre 17, va donner des chariots, c'est pour ça que j'ai cité ce verset, vous voyez pourquoi, il va donner des chariots et des bœufs à tous, sauf aux fils de Kehath. Car ceux-ci, chargés du service des choses sacrées, devaient les porter sur les épaules. Et là aussi, ça a un sens. Les Kehathites sont responsables du coffre, de la table, du porte-lampe, vous trouvez ça dans Nombre 3. Il y a d'autres références, mais c'est les principales. Donc, ne pas toucher au sanctuaire, ne pas utiliser de chariot et porter sur les épaules. C'était les Kehathites. Alors, qui sont les Kehathites ? C'était les fils de Lévi. Lévi était un des 12 fils de Jacob. Donc, Jacob avait 12 fils, dont le fameux Joseph. Lévi était un de ces fils-là. Et Moïse et Aaron sont des Kehathites. Ils appartiennent à cette tribu de Lévi. Donc, c'est une tribu qui a été désignée pour servir comme prêtre. Les hommes de la tribu de Lévi devaient s'occuper du sanctuaire. Donc, Aaron et ses fils furent mis à part pour le sacerdoce qui était devenu héréditaire. Donc, tous les fils de Lévi étaient affectés au temple, au tabernacle et les Kehathites au transport du coffre. Alors, pourquoi les Lévites ? Je me suis posé plein de questions, vous voyez, quand j'ai travaillé ce texte. Pourquoi les Lévites ? Ben parce que vous vous souvenez de l'épisode du veau d'or où Moïse va recevoir les tables de la loi sur la montagne. Et puis pendant ce temps-là, les enfants d'Israël trouvent le temps long. Personne ne consulte Dieu pour eux. Ça commence à être longué. Et ils demandent à Aaron de leur faire un dieu. Ils donnent tous leurs bijoux. On les fond. Et puis comme ils venaient d'Égypte, ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire un veau. Puisque là-bas, Apis, c'était un dieu égyptien. Et en Exode 32, très important, versets 26 et 27, on s'aperçoit que ce ne sont que les Lévites qui sont revenus de leur plein gré à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de repentance immédiate quand Moïse est descendu et qu'il était dans une colère, une sainte colère. Personne ne s'est repenti. Les premiers qui ont réagi, qui sont revenus vers le Seigneur, ça a été les Lévites. Voilà, alors c'est une des raisons, hein, mais il y en a d'autres, mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Seuls les Lévites étaient revenus de leur plein gré à l'Éternel. Et ils se sont joints à Moïse. Donc, vous voyez que la loi était claire, elle était détaillée. Comment transporter l'arche, la procédure était donnée très, très clairement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre ? Vous êtes peut-être curieux, hein, les enfants posent toujours cette question, il y avait quoi dans la boîte ? Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte ? Il y avait les tables de la loi, hein, les deuxièmes, puisque les premières, Moïse les avait cassées. Il y avait un vase en or qui contenait la manne. L'idée était la transmission pour que les générations à venir sachent. Il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri pour prouver qu'il était bien choisi par Dieu. Chacun avait apporté son bâton. Il n'y en a qu'un qui a fleuri, c'était celui d'Aaron. Et plus tard, on y a mis aussi les livres de la loi. On voit ça un peu plus loin. Mais sous Salomon, au moment de la construction du temple, il ne va plus rester que l'étape de la loi. Je sais que le bâton d'Aaron avait fait l'objet d'idolâtrie et voilà, il y avait eu des problèmes. L'arche de l'Alliance va disparaître en 586 avant Jésus-Christ, quand Nébuchadnezzar détruit Jérusalem. Alors depuis, il y a tout un tas de légendes qui courent, hein. Encore au 20e, 21e siècle, il serait caché quelque part, les familles des Lévites auraient trouvé une cachette et ce serait transmis, etc. Voilà, on ne sait pas. Il a disparu en moins 586. Voilà. Donc David a décidé de ramener cette arche. Vous voyez maintenant ce qu'elle représente, ce que ce coffre représente et le caractère étrange que la présence de ce coffre peut créer des tas de problèmes et, dans d'autres circonstances, être un objet de bénédiction. David a décidé de ramener l'arche. Alors, il va faire des préparatifs quand même, hein, il est organisé. La dernière fois, vous avez vu comment étaient ces préparatifs ? Il va descendre à la caverne d'Abdoulam et il va consulter Dieu. Mais là, qu'est-ce qui est écrit ? Il rassembla toute l'élite d'Israël. Ah. Et puis, il n'y a aucune allusion au fait de consulter Dieu. Saül, lui, ne s'était pas intéressé à l'arche, parce qu'il avait déjà suffisamment offensé les prêtres. Il en avait tué pas mal, d'ailleurs, hein, rappelez-vous, et les prophètes à Nob. Mais David, il avait la crainte respectueuse de Dieu. Il avait une notion du culte à lui rendre. Le respect pour les prophètes et les prêtres. On l'a vu deux fois consulter l'Éternel lors de ses batailles. Alors, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Il sait que c'est la volonté de Dieu. Il le sait, il le sent, et c'est vrai, que Dieu veut que ce coffre revienne dans son tabernacle et que Jérusalem soit ce centre. Donc, il ne voit pas pourquoi consulter Dieu, j'imagine. Puisque c'est la volonté de Dieu. Ah ah. Donc il consulte les hommes, les notables, les leaders du peuple. Et le verset qui fait mal, c'est « la chose paraissait convenable à tout le peuple ». Est-ce que le peuple était suffisamment loin de la parole de Dieu pour qu'il n'y en ait pas un qui dise « David, attention, il y a un modus operandi, il y a un mode d'emploi, il y a une façon de ramener l'arche ». Elle est claire, vous avez vu, je vous ai lu les textes dans les nombres, il les avait ces textes. Comment ça se fait que le peuple était suffisamment loin de Dieu pour qu'il n'y en ait pas un qui dise attention ? Il y a une façon de faire. Il faut la respecter. Et là, un verset qui fait un peu mal, c'est le verset 3. Ils chargèrent le coffre de Dieu sur un chariot neuf. David va faire la volonté de Dieu à sa manière. Alors là, c'est tricky hein, quand même, c'est embêtant. On peut faire la volonté de Dieu, mais à notre manière. Et peut-être on peut réfléchir dans notre vie combien de fois on a fait quelque chose que Dieu nous demandait, mais on ne l'a pas fait à sa manière. Alors là, on se sent mal d'un seul coup, hein, on se dit « Oh oui, ça m'est arrivé ». Et oui, il l'a fait à sa manière. Et la sagesse humaine, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, elle est excellente, elle est merveilleuse, mais si elle n'est pas soumise à Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu, ça peut avoir de graves conséquences. On ne peut pas gérer dans notre propre vie, dans notre famille, dans notre église, dans notre pays, on ne peut pas gérer les choses, même si on sait que c'est la volonté de Dieu, avec notre sagesse humaine seule. On l'a vu avec notre pauvre Abner, qui a toujours marché avec sa sagesse, ça lui a fini par coûter la vie. Et c'est la même chose avec David. Oui, là je vous ramène au quadrilatère wesleyen que moi j'aime beaucoup parce qu'il est très simple. Hein, si c'est pas soumis, si on n'est pas soumis à Dieu, que ce soit notre intelligence, notre sagesse, etc. Dieu nous a donné des belles, des bonnes choses. Il nous a donné un cerveau et il y en a qui en ont des superbes. Mais il faut que ce soit soumis à Dieu. Et donc il va faire la volonté de Dieu à sa manière. Et sa manière, eh bien, c'est de consulter les gens autour de lui, les notables, les chefs de 100, les chefs de 1000. Vous trouvez ça dans le livre de Chroniques. Mais personne n'est là pour lui dire « David, tu es en contradiction directe avec la loi de Moïse. Chargez le coffre. » Et puis en plus, charger le coffre, ça fait vraiment « Allez, je prends le truc et bang, je le mets sur un chariot. » Aïe, 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 aïe. Alors d'où vient cette idée de chariot neuf? Je vous ai mis sur la piste tout à l'heure. Qui avait eu cette idée? Les Philistins. Pour renvoyer l'arche. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai raconté l'histoire. Parce que c'est eux qui avaient pensé ça. Et qui c'était chez les Philistins? Les devins, les magiciens, etc. des Philistins. Ah! Et David va reprendre cette excellente idée. Ah! Oh, mince! Rien à voir avec ce que Dieu avait prévu. Et combien de fois dans notre vie, je crois, malheureusement, on se dit, mais c'est la volonté de Dieu. Alors je fais n'importe comment. Je pense que ce n'est pas du tout le cas dans notre église ici, donc je vais quand même le dire. Combien de gens vont évangéliser à la mitraillette, comme j'appelle ça? Parce que c'est la volonté de Dieu. Partager la parole de Dieu en tout temps. Et puis, y en a qui le font avec sagesse, mais il y en a avec la sagesse de Dieu, mais il y en a d'autres qui le font à leur manière. Et on cite les versets bibliques et papapapapapa. Les pauvres gens sont là, oh, où suis-je? Et après, on ne peut plus passer derrière. Ils sont écœurés. Je sais que vous ne le faites pas, mais attention, combien de fois? Je donne un exemple, parce que je crois que c'est un exemple tout simple. Oui, il faut évangéliser, mais pas à la mitraillette. On n'assomme pas les gens avec des versets bibliques. Voilà, on peut faire la volonté de Dieu à notre manière, et même à la manière des païens. À notre brave David, mais qu'est-ce qui lui a passé par la tête? Comment le peuple pouvait être si loin de Dieu que personne ne lui a dit non? Alors bien sûr, vous allez dire, mais ça s'était très bien passé pour les Philistins. Comment se fait-il que ce pauvre Uzza, il a été tué là, simplement parce qu'il a essayé de s'agripper au coffre? Eh bien, le problème, c'est que les Philistins, ils ignoraient totalement la loi de Moïse. Ils n'avaient pas l'ombre d'une idée de ce qu'il fallait faire. Et ils ont essayé de faire au mieux. Et en fait, ils ont manifesté du respect. Pour eux, un chariot neuf, c'était une marque de respect. Et une marque de foi, le fait que c'était des vaches qui allaitaient, etc. Une foi que si vraiment ce Dieu est Dieu, eh bien le coffre va retourner chez lui. Respect et foi, chez des païens. Et Dieu les a pas tués, ils ont pu mettre ce coffre. Est-ce qu'ils ont seulement utilisé les barres? J'en sais rien. Mais ils ont pu mettre le coffre sur un chariot neuf et ça s'est bien passé. Ils n'ont pas été tués. Ils ignoraient. Et là, c'est important, et là, je pense particulièrement aux enfants et aux adolescents qui m'écoutent là en bas. On se pose parfois la question, quand on est jeune surtout, mais alors tous les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils vont aller en enfer? Dieu est un Dieu juste, et si on a confiance que Dieu est un Dieu juste, comment est-ce qu'il commettrait de pareilles injustices? Il trouvera un moyen. Moi, je ne sais pas comment il s'y prendra. Il ne le dit pas. Mais il est clair que quand on n'a pas la connaissance, on n'a pas la responsabilité. Alors, par contre, le problème devient beaucoup plus grave pour nous, chrétiens, qui avons 36 Bibles chez nous, qui la lisons à l'église, probablement à la maison, nous, on a la connaissance. Donc là, c'est beaucoup plus inquiétant, parce qu'on sera jugé en fonction de ce qu'on sait. Et si on ne fait pas ce qu'on sait qu'il faut faire, c'est beaucoup plus gênant. Alors, bien sûr, on est dans l'Ancien Testament, les choses étaient un peu radicales, parce que Jésus n'était pas encore venu. Mais David va se comporter comme on se comporte avec une idole. On la charge sur le chariot et plouf. Et David, il aimait la musique, on le sait. Hein. Il fait jouer toutes sortes d'instruments en l'honneur du Seigneur. Et vous avez un écho de ça, si vous voulez regarder. Je n'ai pas le temps de les citer tous. Vous avez le psaume 24, 68, 150, 47, 99 et probablement d'autres qui parlent directement de cet épisode. Ou indirectement. Alors tout va bien au début. C'est curieux, hein, ça se passe bien. Jusqu'au moment où l'un des bœufs a glissé et le coffre il allait tomber dans la poussière du chemin. Et on peut se poser la question, et d'ailleurs il y a d'autres commentateurs qui se la posent, est-ce que ce n'était pas la volonté de Dieu? Est-ce qu'il n'a pas fait glisser le bœuf? Il voulait leur apprendre quelque chose. Parfois, Dieu nous apprend les choses un peu de façon difficile, hein, on souffre. Et Uzza va agripper le coffre et il meurt sur le coup. Et la Bible dit qu'en ce jour-là, David est saisi de la crainte du Seigneur. C'était ça qui manquait dans cette fête. C'était ça. Il y avait la joie, il y avait la musique, il y avait les chants, il y avait la louange à Dieu, il y avait le char tout neuf, il y avait le coffre qui revenait. Mais on avait oublié que c'était un symbole matériel de la présence de Dieu et qu'il fallait peut-être un petit peu plus de respect. On ne le traitait pas comme on traite une statue. C'est une histoire très très symbolique en fait. Pour un païen de l'époque, le coffre de l'Alliance, c'est un très bel objet, impressionnant, qu'on dépose sur un chariot neuf, etc., parce qu'on a compris qu'il fallait avoir du respect, parce que sinon ça peut vous porter malheur. Ça, c'est pour les païens. Mais c'est un objet comme une idole. On le prend, on le pose, on le déplace. Mais Dieu va montrer que le symbole de l'Alliance, ça ne marche pas pareil. Vous avez vu, dans certains cas, il ne se passe rien. Dans d'autres cas, il y a les gens qui meurent. Pour le peuple de Dieu, c'est un symbole de la présence du Dieu Tout-Puissant, vous imaginez, qui fait alliance avec l'être humain. Et ça, c'est depuis Abraham, enfin depuis Adam et Ève. On voit Dieu qui tend la main, qui fait alliance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'on trouve, je crois, après tout ce que j'ai lu, qu'on trouve que dans les religions judéo-chrétiennes. Un Dieu qui tend la main vers l'homme. Presque toutes les autres religions, c'est l'homme qui essaie d'atteindre Dieu, d'avoir sa faveur, qui essaie, comme il peut, de lui faire plaisir. Et là, dans la Bible, vous avez ce Dieu qui, sans arrêt, tend les mains, cherche à faire alliance. Et même avec Abraham, vous vous souvenez, il sait que l'homme, il n'arrivera pas à tenir sa promesse. Et c'est lui qui passe au travers de l'offrande. On pourra revenir là-dessus à une occasion. Mais il sait que l'homme n'y arrivera pas. Alors lui, il tend les mains. Il fait alliance avec l'être humain. Au travers des sacrifices d'abord, qui annoncent celui de Jésus, il accorde le pardon. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que les chérubins ont les yeux rivés sur le couvercle. D'ailleurs, c'est curieux, nous d'ailleurs on dit couvercle hein, pour le dessus du coffre. Et en hébreu, le mot vient aussi de la notion de couvrir, couvercle, couvrir. Parce que les péchés étaient couverts par le sang du sacrifice. Jésus a fait plus. Il les a complètement éliminés. Donc ce coffre, symbole de la présence de Dieu, ça ne peut pas être une chose qu'on transporte n'importe comment. Il y avait un rituel à respecter. Ah, pas pour le plaisir du cérémonial. Hein. Malheureusement, dans beaucoup de religions, on s'attache plus au cérémonial. Il faut mettre un pied là, puis il faut faire ci, puis il faut ouvrir les yeux, puis il faut les fermer, etc. Non, non, ce n'était pas le souci du cérémonial, mais c'était un rituel à respecter pour montrer la crainte et le respect qu'on avait envers Dieu, ce Dieu tout-puissant qui acceptait de se manifester dans un lieu tout simple. Hein, vous avouerez que ce n'est pas très, très compliqué, hein, mais hautement symbolique de la grâce, la puissance la divinité. Hein, tout cet or représentait la divinité. Le bois d'acacia qui était en dessous représentait l'humanité. Et les deux étaient liés. Là aussi, ça préfigure Jésus, à la fois homme et Dieu. Le bois d'acacia et l'or. Enfin, il y a plein de symboles, hein, je ne les connais pas tous, mais je sais que celui-là est assez frappant. Dieu avait demandé à ce que ce coffre soit porté grâce à ces deux barres sur les épaules des kéatites, c'est-à-dire des hommes consacrés à son service. Ah ! Et là, c'est important. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi pas sur un chariot ? Pourquoi l'arche devait être portée sur les épaules des hommes ? Et du coup, il en fallait quatre. Ce n'est pas une seule personne qui pouvait le porter. Et il fallait que ces quatre personnes marchent d'un même pas et qu'elles soient de la même taille. Les épaules, il fallait qu'elles soient à la même hauteur. Il n'y en a pas un qui devait être plus grand que les autres. Le symbole est clair. Le couvercle, particulièrement, on le voit à peu près sur cette photo, il était au-dessus de leur tête. Les chérubins étaient au-dessus. Les chérubins qui représentaient donc la base du trône de Dieu. Au-dessus de leur tête. Ça se voit là. C'était peut-être encore plus visible. Au-dessus de leur tête. Et combien de fois la parole de Dieu dit que ses voix sont au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. Donc il y avait un symbole très clair. Dieu est bien au-dessus de nous. Par contre, sur les épaules, j'ai longtemps réfléchi. Les épaules, c'est là où on met le joug. Hein. On l'a vu pour les bœufs tout à l'heure. Ça permet de marcher d'un même pas. Parce qu'évidemment, on voit bien, hein, on ne peut pas marcher différemment. Quand on le voit, quand les gens portent les cercueils, ils font très attention d'aligner leurs pas, hein, parce que voilà, sinon c'est un peu dangereux. Les épaules, c'est là où on met le joug, ça permet de marcher d'un même pas, ça permet de porter quelque chose en triomphe. C'est resté dans nos symboles, ça. Hein. Porter quelqu'un en triomphe. Peut-être plus aux États-Unis qu'ici, mais ça a bien son sens. Porter en triomphe. Celui qu'on honore pour le rendre visible. Que le symbole de la présence de Dieu soit visible pour tous. Mais moi, ce qui m'a plus touchée, c'est que dans ce geste, Dieu veut rester proche des hommes. Il ne va pas sur un chariot à part. Il faut qu'il soit porté sur les épaules. La présence de Dieu est supposée rester sur nous et en nous. Rester proche des hommes. Et là aussi, sa présence n'est pas un truc qu'on manipule. Mais elle est liée à son alliance, à l'alliance de Dieu avec les hommes. On ne va pas déposer ça comme un objet, comme une charge. Il doit rester proche de la pensée, des épaules et du cœur des hommes. En le portant sur leurs épaules, c'est quand même assez proche du cœur. Dieu veut rester proche des hommes. Ce n'est pas parce qu'il est si puissant, si extraordinaire, qu'il veut rester loin, au contraire. Il faut qu'il soit porté sur les épaules. Bon, c'est des gens qui sont consacrés, évidemment. Il ne s'agit pas de le faire n'importe comment. Il y avait la tribu des Kératites qui était consacrée pour ce service. Et ils avaient des exigences. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais il y avait des exigences de pureté, etc. qui étaient forcément... Voilà. La mort d'Ouza va contraster avec la légèreté de la fête, des chants, de la musique. Dieu va entrer dans la ville. Il va prendre sa place à la tête de son peuple. Il ne s'agit plus de faire comme sous les juges, ce qui leur semble bon. Dieu va prendre sa place. Et vous savez, je crois que quand un peuple, une église, une famille décide que Dieu soit vraiment prenne sa place, il y a quelque chose de saint, il y a quelque chose de formidable, très difficile à expliquer, je ne sais pas s'il y a des mots, mais c'est tellement important. On ne peut pas le traiter à la légère. Et je le vois bien quand quelqu'un donne son cœur au Seigneur, comme c'est un moment solennel. Et c'est un des plus beaux moments de notre vie, hein, c'est quand on peut amener quelqu'un à donner son cœur au Seigneur et qu'il le fait de tout son cœur. C'est des moments merveilleux. C'est des moments merveilleux. Mais ça a quelque chose de saint, et c'est vrai qu'on a envie d'enlever ses chaussures et dire je me tiens sur un lieu saint. Il y a des moments dans la vie qui sont comme ça, quand on se rapproche vraiment du Seigneur, quand on revient vers Dieu. Le peuple d'Israël, au fil du temps, s'était complètement détourné de Dieu, de sa loi. Alors, ils vivaient bien, hein, mais ils s'étaient détournés de tous les symboles. Ils avaient perdu le sentiment de la présence divine. Et ça, c'est moche. On peut vivre sa foi sans avoir l'ombre d'une notion de ce qu'est la présence de Dieu. Parce que, bah, on vit des rites, on va à l'église, on prie, on rend grâce à table, ou voilà. Mais on peut avoir perdu ce contact sur nos épaules. Alors, ils voyaient le bel objet, doré, brillant, souvenir de victoires extraordinaires. Ils devaient encore rigoler, hein, des Philistins qui avaient eu tas de problèmes avec l'arche. Ils se souvenaient du Sinaï, et à l'intérieur du coffre, hein, il y avait quand même des souvenirs qui étaient là pour être transmis aux générations suivantes. La manne, la puissance de Dieu au Sinaï, le choix d'Aaron, des Lévites, le livre de la loi. Ah, bien sûr, il fallait en prendre soin de ce coffre, il ne fallait pas le laisser tomber. Mais dans le cœur du peuple, ça faisait longtemps qu'il était tombé. Parce que personne n'a été capable de dire à David, « Arrête, tu prends des risques. » Il était tombé dans l'oubli de la loi, dans l'irrespect et dans l'absence de la crainte de l'Éternel. On aimait l'objet, on était content de l'avoir, on était content de le ramener, mais on avait oublié qu'il représentait la puissance du Dieu vivant. Et Dieu est obligé de leur rappeler. Est-ce que Dieu, avec ce risque de chute, ne voulait pas dire quelque chose à ce peuple joyeux qui avait complètement oublié sa parole ? On peut être joyeux et oublier la parole de Dieu. C'est terrible, mais c'est malheureusement vrai. On n'avait pas le droit de retenir avec la main le coffre comme l'avait fait Ouza. Et on ne pouvait pas toucher le coffre comme on avait ramassé par terre les idoles des Philistins. Dieu n'a pas besoin de la main des hommes pour le protéger. Eh bien, le coffre serait tombé, et alors ? On n'avait pas le droit d'y toucher. Ils le savaient, et s'ils ne le savaient pas, ça veut dire qu'ils étaient très, très loin de la parole de Dieu, mais je pense qu'ils le savaient. Le coffre était le symbole matériel d'une réalité puissante et vivante, et sainte. Sainte dans le sens de « à part hein. ». David appelait à un nouveau commencement religieux pour le peuple d'Israël, enfin réuni, c'était formidable, hein. Et justement, je pense qu'il a été porté par cet enthousiasme. Le peuple est réuni et tout le monde loue Dieu, mais c'est extraordinaire. Mais il était indispensable de revenir au respect des commandements de Dieu et d'abandonner l'idolâtrie. Et on ne traite pas le coffre de l'Alliance comme on traite les idoles. Et bien sûr, on ne traite pas notre foi en Dieu comme les païens, comme un truc qu'on manipule. Et consulter les responsables du peuple ne remplaçait pas l'obéissance à la parole de Dieu. Surtout quand il s'est clairement prononcé, comme dans le livre des Nombres. David pensait que ses idées suffiraient, ses bonnes intentions. Ah, ça fait mal, hein. Mais ses intentions étaient bonnes. Et il était dans la volonté de Dieu. Il avait aussi un bon état d'esprit, mais tout ça, ça n'a pas suffi pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est pareil pour nous. Si on veut servir le Seigneur, et là, ça m'a évidemment. Je suis avant de partager avec vous. Moi, je réfléchis pour moi-même. Je me dis, waouh, mes bonnes intentions. Même si j'ai un bon état d'esprit, même si je prends des conseils, ça ne suffit pas pour servir Dieu. La fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que je vais faire quelque chose pour le Seigneur que je peux faire n'importe comment. Et c'est une humiliation terrible pour David, et ça l'est pour chacun d'entre nous. Dire, Seigneur, combien de fois j'ai fait ta volonté, mais complètement à ma manière, sans tenir compte de ce que tu voulais, sans même te demander si tu étais d'accord avec ma façon de procéder. C'est une humiliation terrible pour David, et quand on lit que David était en colère, il n'était pas en colère contre Dieu, hein. Il était en colère contre lui-même. Se dire, mais misère, comment j'ai pu oublier la loi de Dieu ? Et comment personne ne me l'a dit, j'imagine. Mais en tout cas, il s'en voulait. Et du coup, il se sent plus du tout digne. C'est le mot que je cherchais, merci. Il se sent plus du tout digne de recevoir cette arche de l'Alliance et de la mettre chez lui ou proche de chez lui ou dans la tente qu'il avait préparée. Il s'est laissé emporter par son enthousiasme, sa joie de retrouver l'arche, mais il avait oublié, quelque part, il avait quand même oublié qui était Dieu. Ce côté saint. Et nous, évangéliques, il faut quand même qu'on soit très attentifs. On a tellement présenté Dieu comme notre ami, comme celui qui nous comprend, qui nous aide, qui nous bénit. Mais c'est vrai tout ça, oui, un copain. Hein. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi un Dieu de justice. C'est un Dieu de droiture, d'intégrité, un Dieu qu'il faut respecter. Et que ce soit une conversion, que ce soit un moment de baptême, j'ai parlé des moments où les gens donnent leur cœur au Seigneur, ce sont des moments saints, ce sont des moments saints dans le sens de à part, hein, c'est ça que ça veut dire, hein, saint. Ça veut dire mis à part et consacré à. Ce sont des moments spéciaux où on a besoin de ce respect et de cette crainte de Dieu. Alors moi, je ne vais pas aller jusqu'à ce que j'ai lu justement cette semaine dans certains livres où dans l'église, il ne faut pas se sourire, c'est la chair, etc. Voilà, y a des gens qui sont allés trop loin. Résultat, on va naturellement dans l'autre sens. Non, non. D'ailleurs, le psaume, juste, je crois que je l'ai préparé parce que justement, ce sont deux psaumes qui sont côte à côte. Le 132 et le 133, vous pourrez les lire, qui parlent justement du retour de l'arche. Et le 132 parle de l'arche, de la puissance de Dieu, etc. Et puis le 133, qu'il est bon pour des frères d'habiter ensemble. Voilà, donc faut pas tout mélanger. C'est au contraire l'amour fraternel, le fait de pouvoir parler dans l'église, de pouvoir se prier ensemble, de pouvoir s'encourager, de rire ensemble, mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Oui, jouer ensemble aussi. Ça n'a rien à voir. Ce dont je parle ici, c'est du côté puissant, majestueux de Dieu qui inspire une crainte respectueuse. C'est pas notre copain. Même si copain veut dire celui avec lequel on partage le pain. Enfin, on le partage entre nous. Mais lui, il a donné le pain. Il est le pain de vie. Et donc, je pense que c'est quand même quelque chose que David a compris ce jour-là. Et qu'on a besoin peut-être de revenir, surtout qu'en ce moment, on passe du temps à dire on va revenir vers le Seigneur. On va se réajuster. Parce que l'homme, naturellement, s'éloigne. Hein, je pense que vous seriez un ange, ou oui, probablement, si vous vous éloignez jamais. Parce que c'est la nature humaine qui fait que progressivement, on prend un petit peu de biais. Et régulièrement, le peuple de Dieu a eu besoin de se réaligner. Et puis, il repartait et il revenait. Eh bien, parce qu'on est humain. Vous savez, vous avez remarqué les gens qui sont sur qui marchent sur une corde raide. Vous avez vu que le balancier, il va tantôt à droite, tantôt à gauche. C'est très rare. Il y a peut-être des exceptions, hein, mais c'est très rare de voir quelqu'un qui va filer avec un balancier parfaitement droit. Non. Et le peuple de Dieu, de temps en temps, il va un petit peu de ce côté ou un peu de l'autre. Et régulièrement, il faut qu'il se réaligne. Seigneur, je me réaligne sur ta parole. Je me réaligne sur tes façons de voir. Je me réaligne sur tes pensées, sur tes façons de penser, tes façons de faire. C'est pour ça qu'on fait ces réunions en ce moment. C'est pas religieux. C'est pas un rite. C'est pas, il faut tous les X années. Non, non. Mais régulièrement, on est obligé de faire ça. On le fait déjà dans notre vie privée. Je sais qu'on le fait dans sa vie personnelle. Seigneur, pardon, là, j'ai pas bien fait, j'ai pas bien agi, j'ai pas bien... Bon, ok. Mais aussi en tant qu'Église. Seigneur, on revient vers toi en tant que corps. On revient vers toi. On veut se réaligner sur tes façons de faire. Et David a compris que Dieu n'était pas une idole. Que Dieu était bien plus que ça. Il s'est laissé emporter par son enthousiasme, mais il a vite compris que l'enthousiasme ne suffit pas. Il a peut-être négligé le fait que le peuple devait revenir vers le Seigneur de tout son cœur avant de rétablir le sanctuaire à sa place. L'obéissance plutôt que le sacrifice, pour que le pays entier soit solide dans sa foi et qu'il ne fasse plus ce genre de gestes inconsidérés. C'est pourquoi la prochaine fois, il va tout faire dans les règles. Et cette fois, on pourra danser avec lui, danser de joie devant l'Éternel. Et là, vraiment, ce sera la vraie joie parce qu'il aura été dans l'obéissance. Ça, ce sera pour la semaine prochaine.